France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et cette nouvelle année. Permettez-moi de vous présenter très sincèrement mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Et je reprends volontiers les mots du grand maître de la Grande Loge de France, Jean-Raphaël Nothon, qui nous souhaite, je le cite, « de la raison, de la liberté de conscience, de la fraternité et de l'espérance pour 2026 ». Alors pour cette nouvelle et première émission de l'année, j'ai souhaité revenir à une interrogation simple et fondamentale. La franc-maçonnerie, à quoi ça sert ? Cette franc-maçonnerie est souvent entourée de mystères, de fantasmes, de soupçons. On la dit secrète mais influente, hors du monde mais engagée. Au fond, une question demeure rarement posée de manière simple. Quel est son message au monde ? Dans un monde traversé par les violences, les replis identitaires, la montée des radicalités et une profonde crise du sens, que peut encore une démarche initiatique fondée sur la liberté de conscience, le symbolisme et le travail intérieur? Pour en parler, nous recevons Christophe Bourseiller, écrivain, essayiste et homme de radio, dont la chronique chaque semaine sur France Inter nous rappelle que ce monde nous rend fous. Christophe Bourseiller, bonjour.
Bonjour Clément.
Christophe Bourseiller, vous connaissez bien la franc-maçonnerie et la Grande Loge de France. On va rentrer plus en détail sur son message au monde, mais je crois que c'est un jeune homme très extérieur à cet univers maçonnique qui récemment vous a posé cette question, la franc-maçonnerie, à quoi ça sert ? C'est une très bonne question, dans le fond.
C'est une très bonne question, c'est aussi un défi. C'est-à-dire, la question étant, ce jeune homme, j'étais dans un dîner, une loge avait organisé un dîner pour inviter des gens qui n'étaient pas maçons et pour que ces gens, c'est ce que nous appelons des profanes, dialoguent avec des francs-maçons. Et donc, ce jeune homme m'a posé cette question assez troublante, au fond, qui était, mais enfin, vous servez à quoi ? Et c'est vrai que c'est la question des questions, c'est quel peut bien être l'usage ou l'utilité des francs-maçons dans ce monde. Et la réponse est complexe, parce que, pour une raison très simple, c'est que la question qu'il posait, il ne la posait pas à l'ensemble de la franc-maçonnerie dans sa diversité, il l'a posée à la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie du rite écossais ancien et accepté, qui est une franc-maçonnerie traditionnelle, spiritualiste. Et donc, quand on est un franc-maçon spiritualiste, un franc-maçon dans une démarche spirituelle, une quête intérieure, à quoi sert-on ?
Eh bien, on va se poser cette question aujourd'hui. La franc-maçonnerie en Grande Loge de France, Christophe Bourseiller, vous venez de le dire, est souvent décrite comme une voie spirituelle et très intime. Quel est ce cheminement spirituel ? Quel est ce chemin, cet esprit auquel la Grande Loge de France vous a invité, vous aussi, un jour, Christophe Bourseiller ?
Ben, vous savez, l'idée fondamentale d'un engagement dans la franc-maçonnerie spiritualiste, c'est l'idée de donner un sens à sa vie. Pourquoi je suis là ? Est-ce que vraiment je suis là par hasard ? Est-ce que je dois me contenter d'une existence finalement en vivant au jour le jour et en allant doucement vers la fin de tout ? Ou est-ce qu'au contraire, je peux essayer de donner du sens à mon existence ? Et puis avant de se poser toutes les questions, quelle est la raison d'être de cette humanité ? Est-ce que j'ai une place dans l'univers ? Est-ce que j'ai une vie spirituelle ? Est-ce que je vais vivre après la mort ? Mais quel sera mon destin ? Et ce sont ces questions très profonde que tout le monde ne se pose pas. Et il y a une minorité de gens qui se les posent. Et ces gens-là, ils sont les bienvenus dans la franc-maçonnerie, parce que nous, c'est ça. L'idée, au fond, c'est que nous sommes des hommes, ou des femmes, bien sûr, de toute origine, de toute condition, de toute classe sociale, de tout niveau d'éducation, mais nous sommes des gens qui nous posons cette question. Mais pourquoi je suis là ? Quel sens je vais donner à cette vie si chaotique ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'orienter, cette vie, de lui donner un sens de construction, un sens un sens d'ordonnancement du monde? Et c'est ça qui fonde notre démarche.
Alors poursuivons justement cette idée du chemin, et je voudrais évoquer l'initiation. car la démarche maçonnique, elle est initiatique. Être franc-maçon, c'est bien plus qu'une simple adhésion. Ça ouvre à quelque chose. À quoi, alors?
Clément, se tutoie en franc-maçonnerie. Il y a trois niveaux dans la franc-maçonnerie. Il y a un premier niveau, c'est que quand on rejoint une loge maçonnique, d'abord, on rejoint des gens sympathiques, des gens qui partagent des valeurs qui sont les mêmes que soi. Donc, c'est plutôt agréable et rassurant dans un monde où on entend tellement de haine, tellement de xénophobie, tellement d'horreur, de rencontrer des gens qui, au fond, sont des gens modérés, tolérants. Ça fait du bien. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que quand on entre en franc-maçonnerie, on est face à une rigueur morale. C'est-à-dire qu'il y a un symbole pour nous qui est l'équerre, qui est le symbole de la rigueur morale. C'est que nous avons des valeurs. On ne veut pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. On a cette base morale qu'on nous inculque. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau initiatique. C'est-à-dire l'idée que nous sommes dans une voie spirituelle qui nous mène par degrés, 33 degrés, à la rencontre de nous-mêmes. Et là, c'est extrêmement profond et c'est là qu'on entre dans les mystères de la voie initiatique. C'est-à-dire que la voie initiatique, c'est une voie progressive dans laquelle on grimpe un sentier tortueux, où on grimpe les échelles, les degrés d'une échelle, pour aller où ? Pour aller vers nous-mêmes, pour aller à notre rencontre et comprendre quelle est notre place individuelle ou collective dans l'univers.
Donc, magnifique chemin qui peut s'annoncer et très belle porte qui peut s'ouvrir. Je voudrais revenir à cette notion de spiritualité. La Grande Loge de France vient de commémorer la loi de 1905, cette loi dite de séparation des églises et de l'État. La spiritualité qui est pratiquée dans les temples maçonniques est donc quand même très loin d'une pratique religieuse.
Absolument. Et bien sûr, on est très éloigné des pratiques religieuses liées aux religions du livre. Alors nous, à la Grande Loge de France, on n'a pas une religion de la laïcité. Ce sont nos frères et amis du Grand Orient qui mettent en avant cette notion-là pour une raison très simple. C'est que nous considérons que nous pouvons accueillir dans nos temples des chrétiens, des juifs, des musulmans, tout autant que des agnostiques. Moi, je me définis comme agnostique, ou des athées. Enfin, tout ça, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de donner sens à sa vie. Maintenant, la grande différence qu'il y a entre la démarche initiatique et la démarche religieuse telle qu'elle est inculquée dans les trois grandes religions du livre, c'est le fait que la démarche religieuse est une démarche passive. C'est-à-dire que j'entre dans une église, un temple ou une synagogue ou une mosquée. Pourquoi ? Pour recevoir la parole de Dieu. Alors que la franc-maçonnerie, c'est un escalier que l'on grimpe. Et donc c'est un escalier qui nous mène vers une forme de révélation. Mais c'est un escalier où je suis moi dans une démarche non pas passive mais active. Je marche sur le sentier, je grimpe les degrés de l'escalier pour aller à la rencontre de moi-même. Donc la différence est là. D'un côté, une démarche passive, dirait-on, et de l'autre côté, une démarche plus active.
Alors, vous le disiez à l'instant, Christophe Bourseiller, la Grande Loge de France accueille tout le monde, des croyants de toute tradition, des agnostiques dont vous êtes, et des athées. C'est peut-être une force, finalement, face aux crispations identitaires contemporaine qu'on peut rencontrer aujourd'hui.
Mais oui, parce que nous sommes nous dans une démarche, si vous voulez, à la différence des grandes religions, nous ne donnons pas de réponse, nous posons des questions. Et la grande force, c'est de se poser la question. Par exemple, vous savez, il y a un symbole dans nos temples qui est le delta rayonnant, qui symbolise, comme on le lit dans les livres, le grand architecte de l'univers. Donc, alors on pourrait dire, alors vous croyez en Dieu, dans le grand architecte de l'univers. C'est pas la question. La question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que le grand architecte de l'univers ? Qu'est-ce que c'est ? Nous interrogeons la nature du divin. On ne se dit pas Dieu existe ou Dieu n'existe pas, la question n'est pas là. La question c'est qu'entend-on par Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu ? Et là, chacun a sa réponse. Alors l'agnostique que je suis dit est-ce que c'est peut-être la prise de conscience de l'universel ? Est-ce que c'est l'ouverture des chakras d'une certaine façon ? Cette ouverture à l'univers, au cosmos ? Le croyant dira c'est Dieu, c'est le Dieu de la Bible ? L'autre dira, c'est le dieu des musulmans, etc., etc. Peu importe. L'important, c'est cette question. Et notre force, à mon avis, c'est ce qui fait notre centralité aujourd'hui dans la civilisation occidentale, c'est le fait que nous posons les questions, mais que nous ne donnons pas de réponse de type catéchisme.
Et une liberté de conscience absolue.
C'est ça, la liberté de conscience. C'est la liberté de penser ce que l'on veut, la liberté d'ouvrir la parole, et la liberté de se dire, mais d'être dans une démarche questionnante. Et c'est passionnant de se questionner à plusieurs. C'est passionnant de confronter des démarches. Et c'est passionnant de rencontrer dans des temples des gens qui font des métiers très différents des vôtres et qui sont dans la même démarche de réflexion sur eux-mêmes, en train de se dire finalement, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Mais pourquoi je suis né? Mais qu'est-ce que je fais là exactement? Et qui essaient de donner un sens à ce séjour terrestre.
Alors, je le rappelais au début de cette émission, combien nous vivons dans un monde en crise, des guerres, une montée des haines, des populismes, des obscurantismes. Qu'est-ce qui, malgré tout, peut rendre encore confiant le franc-maçon dans ce monde terrible? Ça reste toujours un bâtisseur, le franc-maçon d'aujourd'hui?
Alors, c'est assez complexe, votre question, Clément Ledoux, parce que je dirais que nous sommes dans un monde voué au chaos, et dans lequel nous vivons en plus un sentiment d'incertitude, de doute extrêmement puissant. On est dans un monde aujourd'hui menacé par la guerre, en proie à la montée des populismes, en proie au racisme, à l'homophobie, à la xénophobie, en proie aux violences, à l'extrémisme, à l'extrémisation, à la polarisation des sentiments. Et face à ça, c'est vrai que notre force à nous, c'est mon sentiment, c'est comme ça que j'interprète la franc-maçonnerie, je pense que nous incarnons un pôle de résistance spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes plutôt nombreux, on n'est pas si nombreux que ça, nous sommes plus de 30 000 à la Grande Loge de France, mais tous les francs-maçons du monde, ça fait beaucoup de monde. Et dans ce monde chaotique, nous sommes nous les garants, nous sommes comme des garde-fous, nous sommes les garants d'une forme de tolérance, de modération, de résistance, un pôle de résistance face au déferlement de la barbarie. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, et c'est même sans doute notre fonction centrale sur le plan de l'humanité en général.
Alors Christophe Bourseiller, je voudrais qu'on parle aussi un peu de la jeunesse. J'évoquais aussi en début d'émission ce jeune qui vous avait posé cette question spontanée, la franc-maçonnerie, après tout, à quoi ça sert? Il y a peut-être d'ailleurs en ce moment des jeunes auditeurs qui nous écoutent. Finalement, pour un jeune d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie, c'est pas un peu ringard, Christophe Bourseiller? La Grande Loge de France peut encore parler à cette jeune génération?
Bah écoutez, la franc-maçonnerie, ça peut paraître ringard parce que c'est ancien, et tout ce qui est ancien peut passer pour ringard, mais je crois que justement notre force, c'est qu'on est ancien. C'est-à-dire qu'on est justement les garants de valeurs immuables, intangibles, traditionnelles, nous disons traditionnelles. On est les garants d'une rigueur, d'une droiture morale. On est les garants d'une modération, d'une sagesse. Sagesse et modération dans l'usage des biens de ce monde. On est les garants de ça, et c'est ça qui fait notre force et notre présence au monde. Et à mon avis, ça n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, heureusement qu'il existe des pôles de résistance face à cette folie qui est en train de se développer à une vitesse exponentielle.
Et qui peut intéresser la jeunesse.
Ah oui, je crois.
Alors, nous parlons aujourd'hui avec Christophe Bourseiller du message au monde de la Grande Loge de France. Et pourtant, la franc-maçonnerie est plutôt marquée par le culte d'un certain secret. Un secret d'ailleurs souvent mal compris. C'est quoi, Christophe Bourseiller, ce secret? Pas tant une dissimulation en réalité.
Non, c'est pas du tout une dissimulation. Vous savez, le secret, il y a deux choses. Vous avez d'abord le secret maçonnique, dont on parle beaucoup, qui est un peu une tarte à la crème. Hein. Les anti-maçons veulent toujours connaître notre secret. Qu'est-ce que vous cachez dans vos temples? Alors le secret, vous savez, c'est une formule que nous employons pour désigner en quelque sorte notre petite lumière intérieure à chacun d'entre nous. Donc c'est pas très méchant le secret, c'est plutôt, je crois que tout individu a son petit secret en lui-même, et c'est comme ça que nous parlons de ça. Et puis il y a un deuxième secret peut-être, dont il faut expliquer le sens, c'est le fait que nous travaillons dans des temples fermés, qu'on ne peut y entrer que si on est franc-maçon, sauf si on peut les visiter le jour où on visite les monuments historiques, bien sûr. Nous travaillons à couvert, nous sélectionnons nos membres. Alors pourquoi faisons-nous ça? Eh bien, c'est justement parce que nous sommes un pôle de résistance spirituelle face à la barbarie. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être secret, le fait de nous enfermer, le fait de nous préserver, de nous protéger, fait que même les nazis n'ont pas pu nous détruire pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui nous permet de maintenir cette force de résistance spirituelle et ce qui fait notre spécificité.
Alors, pour conclure cette émission, Christophe Bourseiller, si vous deviez résumer en une phrase, en quelques mots, ce que la franc-maçonnerie peut dire aujourd'hui au monde qui nous entoure, jour, quelle serait-elle ?
Bah, vous savez, le monde d'aujourd'hui est un monde un peu déglingué, je dirais, et que face à ce monde, je dirais que nous ne sommes pas seulement des bâtisseurs, comme on dit souvent, les francs-maçons sont des bâtisseurs, mais nous sommes aussi des réparateurs.
Christophe Boursillet, il nous reste encore un petit instant. Vous êtes rédacteur en chef de la revue d'histoire de la franc-maçonnerie et des cahiers Jean Scott Érigène, et vous êtes président de la loge nationale de recherche Marquis de Lafayette. En quelques mots, ça consiste en quoi ?
C'est beaucoup de travail, en fait. Hein. Alors, en fait, oui, la revue d'histoire de la franc-maçonnerie est publiée par la commission Histoire de la Grande Loge de France, dont je suis le responsable également. Et en fait, c'est une revue annuelle universitaire qui se donne pour objectif de faire connaître l'histoire de la franc-maçonnerie en général et de la Grande Loge de France en particulier. Dans notre numéro 1, qui est aujourd'hui en vente dans les librairies, pas toutes les librairies, il y a notamment des articles sur la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque nous avons eu de nombreux résistants et compagnons de la Libération qui étaient francs-maçons, entre autres choses. Et puis la deuxième revue dont vous parlez, c'est une revue qui s'appelle Les Cahiers Jean Scott Érigène, qui est une revue qui est publiée par une des nombreuses loges de recherche de la Grande Loge de France que je chapeaute, la loge de recherche Jean Scott Érigène. Il faut savoir qu'il y a 11 loges de recherche à la Grande Loge de France, qui sont des loges qui se donnent, qui sont des loges de travail, qui réfléchissent à la franc-maçonnerie en général. C'est beaucoup plus que des loges maçonniques normales, on pourrait dire. Et donc, je m'occupe de coordonner effectivement ces loges de recherche. Voilà. Au sein de la Loge Nationale de Recherche, Marquis de Lafayette.
Merci beaucoup Christophe Boursillet. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, et puisque nous avons évoqué avec Christophe Boursillet le monde qui nous entoure, nous souhaitons rendre hommage à la loge Harmonia Mundi à Versailles. Ce nom, Harmonia Mundi, renvoie à une intuition ancienne, l'intuition d'un monde qui, au-delà de ses désordres apparents, obéirait peut-être à une loi d'accord et de proportion. Non pas un monde sans conflit, mais un monde où le sens, né de la relation, de l'équilibre entre les différences, de la conciliation des oppositions nécessaires et fécondes. En franc-maçonnerie, cette harmonie n'est jamais donnée. Elle se cherche, elle se travaille par l'effort intérieur et par l'attention portée à l'autre. Elle invite à relier plutôt qu'à opposer. En rendant hommage à la loge Harmonia Mundi, la Grande Loge de France rappelle que son projet initiatique vise humblement mais résolument à accorder l'homme au monde et peut-être ainsi à rendre ce monde un peu plus harmonieux. Dans l'actualité de la Grande Loge de France, de nombreuses conférences et événements programmés partout en France et à l'étranger que vous pouvez retrouver sur notre site gldf.org. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux, à la prise de son aujourd'hui Alexandre Dang et à la réalisation Philippe Baudouin. Très bon dimanche à tous.